RMC.
Inbound the card right to Jordan. Time winding down. Michael for three. Yeah, yeah, yeah.
Basket time.
Final seconds. Bryant for the win. Bang.
Pierre Dorian.
Basket Time, votre rendez-vous basket du mardi sur RMC. À retrouver en podcast sur rmc.fr. Cette semaine, nous sommes avec Arnaud Valadon, Frédéric Weiss et Félix Gabory. Bonjour messieurs.
Salut Pierrot.
Salut tout le monde. Je guette les mines. Personne n'a mis son réveil pour regarder Wemby. Personne.
Ah si, un petit peu plus tôt pour regarder ce matin, c'est la technique.
Peut-être oui. Fred, mais Fred t'as toujours une sale tête le matin. Donc.
Mais moi je suis pas un mec du matin.
Les playoffs c'est un marathon Pierrot, si tu commences déjà à te lever à 3h du mat pour un match 1 de demi-finale
de conf. Non mais tout dépend de votre passion après, moi ça, je juge pas. Hein.
On peut avoir une passion à 7h du matin.
Voilà.
En donnant le biberon, tu vois.
En ne connaissant pas le résultat.
En ne connaissant pas le résultat.
Très bien. Match en intégrale.
Le All Possessions,
ok. T'aimes bien ça?
C'est le meilleur All Possessions, j'adore.
Même si tu n'as pas complètement le flow du match.
Pas la dramaturgie. Ouais, ouais. Si t'as le courage, vaut mieux.
Le mieux.
Évidemment.
Mais je dirais le mieux si, si t'aimes te prendre la tête. Suivez mon regard. Si tu regardes le All Possessions et à 6 minutes de la fin,
exactement,
tu te remets l'intégrale.
Tu bascules sur le feed, voilà. Ouais. Pour tout
j'aime bien.
Bonne stratégie.
Ça, j'aime bien.
Bon, eh ben c'est un spécial playoff, hein. On va pas s'éterniser hein, à l'est, à l'ouest. Et puis, comme on a ce duel Wemby-Gobert, vous allez nous raconter un duel franco-français. Voilà, un duel franco-français. Ça peut être ce que vous voulez. Hein. Ça peut être Chirac-Mitterrand, si vous voulez. Hein. C'est pas grave. Hein.
Fred,
parce que je sais que Fred n'est pas très content du thème, donc...
Ça m'a passionné.
T'as grogné, Fred.
Non, je ne grogne jamais, mais bon, je suis pas tout à fait d'accord.
Allez, on démarre avec l'est, évidemment.
In game one of the second round, the New York Knicks take a 1-0 lead, 137-98, an absolute force on both ends.
Alors, les demi-finales à l'Est, Pistons, Cavaliers et Knicks, Sixers. Avant même de parler des demi-finales, il faut dire un mot quand même de l'énorme upset Philadelphie qui sort Boston. Et puis quand même des Pistons qui ont fini par assumer leur statut de tête de série numéro 1. Ils sont passés vraiment tout près de la correctionnelle face à Orlando. Mais au final, c'est une meilleure équipe qu'Orlando. Je pense qu'ils l'ont quand même démontré.
Avec un meilleur coach.
Avec un meilleur coach, c'est ça la diff.
Qui est déjà plus là, Jamal Mosley, ouais. Qui a été viré déjà... Ouais, bah après Orlando, t'as eu des faillites. Jalen Suggs est quand même largement pointé du doigt, alors que Banchero a plutôt assumé son statut.
L'absence de Wagner fait du mal sur la
match
série.
7. Voilà, il a joué 4 matchs sur la série, ouais. Et globalement, ça résume un peu la saison des Magic. Tu vois cette saison, c'est qui croit un moment. Ils avaient fait des moves en faisant venir Desmond Bane, qui est un petit peu.
C'est un bon move.
Qui a un bon move, mais qui shoot pas très bien sur cette série.
Qui est un peu sous-utilisé, même sur la fin. C'est pour ça qu'on peut poser la question sur Mosley, sur son utilisation. Non, mais surtout, l'attaque d'un immondisme d'Orlando sur la fin de la série, c'était horrible.
Il y a eu une série de 23 shoots ratés d'affilée dans le match 6, je crois.
Non, mais même
dans le bloc. 45 minutes en temps, tu vois, de 22h à 22h45, ils n'avaient pas mis un panier. C'est un truc de ouf.
Même dans le match 7, les possessions, les attaques d'Orlando, c'était vraiment pas beau à voir.
Je vois Frédéric Weiss qui boit du petit lait.
Non, mes collègues me font rire. Ils ne se rappellent pas que dans le match 6, ils ont plus de 24. Hein. Et qu'ils sont pas si mal que ça, et que s'ils passent, il y a pas de scandale. La machine s'enraye, je suis d'accord. Sauf qu'il faut se rappeler de ces plus 24 quand même. Ça veut dire qu'à un moment, ils ont été meilleurs que l'équipe de numéro 1 de l'Est.
Oui, donc, sauf que bon, faut à l'arrivée, aussi... si c'est pour avoir plus 24 mais... de pertes, c'est qu'il y avait un problème.
Je suis d'accord. C'est juste que j'essaie d'expliquer que vous êtes en train d'expliquer que ouah, c'était super simple, etc. sur
non.
la fin.
Ah non.
Qu'ils gagnent logiquement. Je sais pas si c'était.
Ah non, Détroit était décevant.
Détroit était catastrophique.
Ils finissent bien leur série quand même, Détroit.
Et voilà, ils réussissent à assurer sur la fin du match 6.
Ils ont pas reconnaître ça.
Et Kate Cunningham est bon en plus sur le match 7, en perdant moins de ballons.
Tobias Harris,
c'est toujours bon.
Il y a Jalen Duren qui est un petit peu déçu.
Jalen Duren, lui aussi, est plutôt bon sur le dernier match. 15-15, c'est plutôt très correct. Mais dans l'absolu, je trouve que c'était une série bien équilibrée. Et c'est pas seulement parce que ça va en match 7, c'est parce que ça jouait d'une façon assez similaire des deux côtés.
C'est pas très envie. Quand tu vois que ça croise Cleveland-Toronto, à la rigueur, moi, Toronto, j'ai bien aimé. Ce qu'ils ont fait.
Mais évidemment.
Et je suis déçu qu'ils passent pas. Alors là, la série qui arrive, Cleveland contre Détroit. Pourtant, j'aime bien Détroit. Alors au-delà que c'est des villes un peu industrielles qui sont en train de dépérir, tu vois, c'est un peu les cousins, les cousines germaines ces deux villes. J'ai pas envie de regarder. Ça me fait pas envie. Quand tu vois ce qui s'est passé sur le premier tour, tu dis.
Ouais.
C'est souvent comme ça, ça peut aboutir.
C'est les deux équipes, enfin de mon avis, les plus décevantes de ce premier tour à l'est et même les deux conférences confondues. Et c'est les deux équipes qui se retrouvent, qui s'affrontent. Donc quand vous pronostiquez cette série-là, c'est un peu galère parce que vraiment.
Et tu dis qu'un des deux va aller en finale de conf.
Ouais, mais c'est ça. Elles ont vraiment été hyper inquiétantes parce que Détroit, en fait, Fred, on te faisait un peu rire, mais on pointait du doigt un peu Orlando parce que c'est justement pour nous Orlando qui paume cette série plutôt que Détroit qui ne la gagne, tu vois.
Je suis assez d'accord.
Et Détroit s'en sort parce que c'était faible en face. Mais on a vu les limites de Détroit.
Mais c'était dur, c'était solide. C'était deux équipes qui se ressemblaient beaucoup. C'était une match-up qui était très compliquée pour Détroit. Et je trouve que ceux qui me déçoivent plus, pour moi, c'est les Cavs, parce que les Raptors, c'est une très belle équipe avec les joueurs qui a manqué.
Bah oui.
Je suis très surpris qu'ils soient obligés d'aller au match 7 contre ces Raptors. Alors oui, ça joue bien au basket, les Raptors. Oui, ça donne de l'énergie. Oui, t'as sorti un mec comme Murray Bowles. Ok. Mais à l'intérieur, à un moment, il faut que tu domines. Et heureusement que sur le match 7, Jarrett Allen nous fait un 22-19. Parce que sinon, tu ne gagnes pas.
Hein. Et alors, donc, Philadelphie, est-ce que on y croit ou est-ce que c'est un one-shot? Parce que moi, ils ont pris une telle saucée dans le premier match contre New York. Ils ont déjà tout donné ou il y a un avenir dans cette
série? Moi, je pense qu'ils étaient épuisés. Tu l'as vu, ils ont joué à l'Embiid notamment. Mais en général, ils étaient épuisés. Mais je ne sais pas, moi, je considère que c'est qu'un seul match. Alors oui, c'est une rouste. Oui, ils ont pris dans tous les sens. Mais finalement, c'est qu'une défaite. Mmh. Et ils sont encore. S'ils gagnent le prochain match, ils piqueront quand même l'avantage du terrain. Donc réellement, pour l'instant, il y a statu quo. C'était OK. Pour l'instant, New York est en train de montrer sur deux matchs de suite, en comptant Atlanta. Sixers qu'ils ont progressé, qu'ils jouent mieux, etc. Mais
4 matchs de suite, faut souvenir que les Knicks sont quand même à 1-2 face aux Hawks, et là ils sont
mais sur 2 matchs de suite où vraiment ils écrasent la concurrence.
Non mais ils sont quand même sur 4 matchs de suite à plus de 135 points par match, avec Jalen Brunson qui colle presque 30 points.
Il y a 75 points à la mi-temps là.
C'était une boucherie ça. Le premier quart-temps est à peu près serré, dans le deuxième il y a plus 20, c'est terminé. Il y avait Joel Embiid. Écoute, cette équipe de New York pour l'instant elle dégage ce côté, on est en mission. Et alors, est-ce qu'ils vont rouler sur Philadelphie? Philadelphie sont tellement imprévisibles, personne pensait qu'ils allaient pouvoir taper Boston et ils vont aller arracher ce match 7.
Mais là, ils arrivent sur les rotules, hein, parce que t'as raison, Fred, quand tu dis qu'ils arrivent fatigués.
Ils ont peut-être fait déjà leur exploit.
Ils ont ce match 7, c'était quand? C'était samedi ou c'était
dimanche?
Ouais, donc voilà, c'était
dimanche soir, il y a deux jours.
Ouais, c'était il y a deux jours. Donc t'enchaînes match 7, tu sors Boston qui était parmi les
ils
favoris.
Ont off,
tu renchaînes derrière avec New York. En plus, New York qui joue vraiment très très dur. Pour moi, la bascule sur avec le premier tour de New York, ça a commencé quand ils ont commencé à mettre de l'intensité et qu'ils ont vraiment step up sur ce level là et qu'ils ont complètement asphyxié à Atlanta. Bon, après Atlanta c'était quand même pas énormément d'adversité, mais ils ont vraiment step up là dessus et aussi les role players que sont Anunoby, Josh Hart, etc. Ça se met un peu au diapason du côté de New York et collectivement t'as vraiment l'impression de rouleau compresseur. Après, t'as raison, Fred, c'était qu'un seul match hier. Comme tu dis, en plus en play-off, que tu perdes de 35 points ou d'un point, c'est exactement la même chose.
C'est pas tout à fait la même chose d'un point de vue psychologique. C'est-à-dire que là, quand même, ils ont affirmé une certaine supériorité.
Oui, mais ça peut être à double tranchant.
On a vu que la série allait repartir un peu comme le premier tour, c'est-à-dire Philadelphie va être condamné à l'exploit, il va devoir aller chercher des ressources très loin, va devoir compter sur un Embiid sur qui on peut pas toujours compter.
Ça peut être à double tranchant parce que ça peut être aussi New York qui se dit finalement on les a écrasés et ça va être facile et tu peux te relâcher un petit peu, c'est humain et même s'ils n'auront pas la volonté de le faire, et de l'autre côté se dire on va pas prendre une rousse de la même façon et on va peut-être step up aussi. Donc
parce qu'il y a quand même beaucoup de talent du côté de Philadelphie.
Oui.
Il faut juste que ça connecte. On a l'impression qu'ils sont un peu fatigués. Alors je sais pas si c'est juste les genoux d'Embiid qui donnent cette impression-là, parce que
ça rejaillit sur tout le monde.
Il y a tellement d'images où il est complètement cramé, où il se touche les genoux, etc. Je sais pas si c'est uniquement lui.
Après,
ou si c'est global.
Ils ont pas une rotation de fou. Hein. Ouais. Ils ont 6. Je vais être gentil. 7 joueurs qui vont pouvoir t'apporter. Le reste, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Hein,
du côté de Barlow, c'est vraiment pas ouf. Grimes qui peut.
Oui, mais il y a des très bons joueurs, sauf que. Paul George, on ne sait pas ce que ça peut donner sur plusieurs matchs, sur des enchaînements comme ça. Joel Embiid, on ne sait pas trop non plus. Je demande à voir quand même.
Rotation réduite, c'est du coup plus de fatigue et moins aussi d'armes pour pouvoir s'adapter et pouvoir un petit peu s'ajuster par rapport.
Peut-être des Drummond sortent de sa boîte, quoi. Il a été bon au premier tour.
Non, mais c'est pas un mauvais joueur du tout. Mais c'est pas Joel Embiid, quoi.
Après, la grande question, c'est est-ce que Joel Embiid peut faire une série entière?
C'est ça.
Ça, c'est une vraie question.
Et là, on est sur de la science-fiction.
Parce que le premier match, c'est comme s'il n'avait pas joué. Je te dis, franchement, moi, je m'attendais à ce qu'il le sorte après le troisième, qu'il le mette au frigo. Parce qu'en en fait, il ne pouvait pas, là.
Mais en fait, il aurait dû, peut-être.
Ou même se dire, on le met au frigo sur le match.
Oui, c'est ça.
Tu vois, tu vas jouer un match sur deux à New York. On t'attend pour jouer les deux matchs à Philly.
Ouais, mais voilà. Tu tentes souvent de gagner le premier parce que oui. C'est celui où tu as,
tu vois, c'est où tu peux récupérer l'avantage du terrain. Tu peux profiter de.
Est-ce que tout dépend de Joel Embiid?
Oui.
Ou est-ce
oui,
que New York est plus fort que ça?
De toute façon, avec ce qu'ils ont en face, Karl Anthony Towns, Jalen Brunson, rien que Towns dans la raquette, t'es obligé d'avoir un Embiid pour pouvoir un peu matcher ça. Sinon,
ouais,
c'est boulevard.
Surtout, ça va vite, il va l'attaquer à oui. Chaque fois, c'est exactement ce qu'il a fait. C'est compliqué pour jouer à Embiid quand même, ces match-up. Et Mitchell Robinson aussi, il est très costaud. Enfin, il y a du matos.
Non, après, souvent, Towns se fait quand même défensivement sur Embiid. Towns s'est souvent bien fait dominer.
Défensivement,
carrière,
oui, ouais. Mais offensivement, il peut lui apporter des menaces. Il est obligé de sortir, il est obligé de bouger. C'est rapide quand même, Towns. Hein.
Et alors, si on en dit un mot quand même de Boston, est-ce que c'est remis en question absolue? Est-ce qu'il va falloir passer à autre chose que vivre et mourir par le 3 points? Parce qu'en fin de compte, c'est ce qui leur est arrivé, hein, une fois de plus.
Mais ils ont toujours. Enfin, c'est leur.
Oui, d'accord.
Mais tu peux le faire avec un pivot, c'est le problème de Boston. Quoi.
Jason Tatum a annoncé une dynastie qu'ils auraient 5 bagues avant ses 25 ans ou je ne sais plus quoi. Et qu'au final, ils en ont une. Alors, c'est très bien d'en avoir une. Mais avec les espoirs et le niveau de jeu qu'ils affichent.
Après, Pierrot, cette année,
se faire sortir parce que tu es en panne d'adresse à 3 points, c'est un peu dommage quand même.
Non, ils sont très décevants. Après, faut pas oublier les attentes qu'on avait d'eux avant le début de saison. Quand tu te replonges sur
cette saison,
on est
d'accord, mais ils finissent au complet.
Non, mais et puis au complet, non, parce que tu as tout blessé sur ce match de 7. Après, on va pas tout remettre en question et tout jeter non plus à Boston pour juste une élimination.
C'est ça la question.
Mais par contre, Mazzulla s'est bien planté sur ce match de 7. Mazzulla, il fait un pari. Il y a un coup de poker sur ce match 7, c'est complètement planté. Quand le 5 majeur n'avait jamais joué ensemble de toute la saison, il a balancé du coup Harper qui est le moins
Harper, c'est quand même surprenant.
Qui est le moins bon des frères Harper pour le coup vraiment et on l'a vu pour au final le sortir au bout de 4 ou 6 minutes sans qu'il marque ne serait-ce qu'un seul point et il a jamais réussi à
l'an dernier, tu dis c'est pas sur cette saison qu'on va tout jeter mais ils sont déjà fait attraper l'an dernier et là pour le coup
il y avait des grandes attentes et oui c'était déjà
mais tu peux te poser des questions et je te rejoins pas tout à fait Félix parce qu'effectivement en début de saison t'as pas d'attente sauf que vu l'avancée de la saison vu que tu termines deuxième vu que Jason Tatum arrive les attentes arrivent
bien sûr
et donc tu as quand même une grosse déception parce que finalement je suis bien placé pour le dire tout le monde imaginait que Boston serait en finale en fait vu la saison qu'ils ont fait sans Tatum arrive en plus il est bon dès qu'il arrive. Bah, tu te dis, c'est pas possible que tu fasses autrement. Et comme tu fais autrement, bah, c'est une énorme déception. Moi, je pense qu'il y a des choses à voir du côté de Boston.
Bien sûr, du coaching de Mazzulla qui, pour le coup, il fait n'importe quoi. Il fait l'apprenti chimiste sur la fin de la série. Déjà, toute la série, avec le retour d'Embiid, il a jamais réussi à s'adapter, à trouver la solution pour défendre contre Embiid. Il s'est entêté dans un small ball. Il s'est entêté aussi, au pied, même offensivement, sur ce jeu à 3 points. Et jamais trouvé une seule solution. Le moment où il tente un coup de poker sur le match 7, c'est complètement foiré parce qu'il a été
le problème de Boston est assez simple, c'est que qui continue à miser sur le jeu à 3 points, c'est pas dérangeant, mais est au moins un vrai bon pivot. Keita, on a vu, ça peut pas tenir la route. T'as fait venir Vucevic qui fait son âge, mais par rapport aussi à ce style de jeu, il est lourd, Nikola Vucevic. Il a une main.
Vucevic qui a été benché sur le Game 7,
depuis son trade, ça a jamais trop pris. Il sortait toujours du banc, il avait à peine 20 minutes. Quand t'es champion, t'as un Porzingis. Qui est là, si je dis pas de bêtises, même si c'est Porzingis, sais qu'une fois sur deux, il peut, oui, probablement, mais t'as besoin quand même d'un pivot à peu frappe. Tu mets un Hartenstein dans cette équipe de Boston, t'as au moins un pivot qui tient la route défensivement, qui va gêner tout le monde, qui peut aussi te mettre des petits points. Keita, on l'a vu, c'est pas possible. Donc le chantier, il est simple, c'est au moins avoir un intérieur à peu près impactant des deux côtés du terrain, et ça ira. Après, tu peux continuer, tu as la qualité de shooter, tu as tous les guards qu'il faut. Que tu sois un peu small ball sur le poste 4 en mettant un peu Jason Tatum, pourquoi pas, mais au moins avoir un pivot de bonne facture. C'est juste ça qui leur manque. Et ça ira mieux après.
Avant de passer à l'Ouest, est-ce qu'on a tout dit sur Pistons Cavaliers? Ça peut être mieux ou pas que ce que vous imaginez?
Moi, je pense que ce sera une belle confrontation. En fait, je n'aime pas du tout les Cavs, donc j'espère que les Pistons vont
les
écraser.
Que t'aimes pas les Cavs?
Mais ils sont nuls. Ils sont catastrophiques. Ils m'ont encore plus déçu contre les Raptors. Donovan Mitchell, je suis désolé, bof. James Harden, je suis désolé, mais bof. À l'intérieur, tu te dis, t'es dominé par Scottie Barnes et Murray Bowles.
vraiment.
Scotty Barnes, vrai joueur.
Alors Scotty Barnes, ouais, Murray Ball qui fait 2 mètres. Il a dominé des mecs qui font 2m10, 2m15 en face, hein, largement. Donc moi j'ai trouvé ça insupportable. À regarder jouer, c'est insupportable. J'aurais vraiment adoré que les Raptors passent, parce qu'au moins, il y a une âme dans cette équipe.
Et les Cavs passent au Game 7, ils ont besoin d'un Game 7, oui, alors qu'en face, t'as ni Ingram ni Quickly. Donc mais il te manque deux gars dans ton 5 majeur. C'est
incroyable. Donc j'espère que les Pistons vont les balayer.
Faudra quand même faire un truc sur les cercles à Toronto, hein, parce que entre le buzzer beater de Kawhi et là, ce buzzer beater de Barrett, le ballon...
On le voit plus à l'écran.
Ça monte à 2 mètres, non?
À un moment, on le voit plus à l'écran. C'est clair.
C'est le panier ensorcelé. C'est le même? C'est du même côté ou pas?
Tu crois?
C'est le même côté.
Oui, c'est le même côté, à gauche. À gauche de la caméra.
Bien, alors, c'est fait pour l'Est. Qui va être champion à l'Est?
Ah, les Knicks, ils sont quand même lancés comme pas comme des frelons, mais...
Attention, hein, parce que...
Les Knicks, s'ils continuent comme ça, ça va être une équipe très sérieuse. En fait, ils ont besoin de se rassurer en attaque pour être bon défensivement, ce qui est paradoxal pour cette équipe, mais quand ils sont bons en attaque, ils vont être bons défensivement. Donc ils vont passer contre les Sixers et après contre les trois.
Après, comme d'hab, les Knicks, c'est la hype et gérer cet environnement new-yorkais, parce que déjà que ça commençait à s'enflammer sur le parvis du Madison Square Garden à Chambray, c'est... Ah, quand New York va en ébullition, c'est fou, quoi.
Ah bah oui, mais en même temps, ça peut te porter, hein, aussi.
Allez, on passe à l'Ouest.